dire bonjour. pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis ancien de l'Église. Et puis, Étienne va m'accompagner avec des dessins donc, qui vont illustrer un petit peu le thème de ce matin. Donc, c'est un culte en l'honneur de Dieu en premier, mais aussi pour Maria. Et vous venez d'assister donc avec, je suppose, hein, beaucoup d'émotions, comme moi, au baptême de Maria. Et vous avez écouté avec attention son beau témoignage de vie, et puis aussi toutes les transformations que Dieu a opérées en elle. Alors peut-être avez-vous été touché et même surpris par son témoignage qui parle d'un Dieu vivant qu'on peut rencontrer et qui vient métamorphoser nos existences. Alors, pour certains, cela peut faire penser à un conte merveilleux des Mille et Une Nuits où un génie apparaît et accomplit les vœux de celui qui vient de frotter la lampe. Alors, vous savez, hein, tu peux me faire ce que je te demande. Pourtant, ici, il ne s'agit ni de lampe, ni de génie, mais de Dieu. Et j'aimerais ce matin, l'espace de cette prédication, revenir sur le très beau témoignage de Maria et, à travers elle, sur la rencontre merveilleuse que toute femme, tout homme peut faire avec Dieu, qui va transformer positivement les vies. Alors, voilà pourquoi j'ai intitulé la prédication de ce matin « Le baptême, témoignage d'une vie que Dieu transforme ». Alors, personne dans cette salle, je pense, n'a demandé à venir au monde. Personne, bien entendu, n'a pu choisir son pays de naissance, ni sa famille, ni son sexe. C'est ce qui a si bien été chanté par Maxime Le Forestier dans Les Trottoirs de Manille. Vous avez connu cette chanson, vous la connaissez. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger, pour apprendre à marcher. Être né quelque part, pour celui qui est né, eh ben, c'est souvent le hasard. Alors, puisque nous n'avons rien choisi, nous nous retrouvons bien souvent dans un modèle de vie qui ne nous convient pas. Nous subissons les événements et notre naissance va déterminer ce que plus tard nous serons. Et cette vie, il faut bien l'avouer, est un fardeau qu'il faudra peut-être supporter jusqu'au bout. Alors pour beaucoup, vient cette pensée récurrente, hein, qui revient sans arrêt, « Oh, si cela était possible, j'aimerais tout effacer et repartir de zéro en choisissant ma vie. » Alors oui, on rêve d'une seconde naissance. On aimerait redevenir un tout petit enfant pour recommencer sa vie. Mais cette belle pensée va hélas se heurter à une bien triste réalité. Sortir de cette vie n'est guère possible. Certains s'y essayent quand même, hein, en quittant tout, en reconstruisant par exemple une famille, hein, c'est les reconstructions de famille, en vivant des expériences extrêmes, certains le font en prenant des substances hallucinogènes, ou aussi en vivant une passion intense. Mais au moment où l'on fait le point vraiment, sincèrement sur sa vie, peut-on dire honnêtement, j'ai réussi ma vie, j'ai vécu l'existence que j'espérais vraiment? Alors, vous avez peut-être trouvé que mon discours ce matin est un peu pessimiste, hein. Oups, hein. Pourtant, le constat que je fais est très proche de celui qu'a fait le roi Salomon dans la Bible. C'était un grand roi, un roi très sage. Il écrit « J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » Ça ne sert à rien, tout ce qu'on fait. Ce constat que vous faites peut-être vous-même est assez difficile à accepter, car nous savons que Dieu ne nous a pas créés dans ce monde pour que nous soyons malheureux, mais au contraire que nous soyons heureux. Alors en réalité, en se privant de la présence de Dieu dans nos vies, eh bien nous fabriquons nous-mêmes notre propre malheur. Et là je vais vous donner un exemple que j'ai failli faire une fois. Nous sommes en quelque sorte comme une voiture diesel dont le réservoir dans lequel nous avons mis du super. Ça ne marche pas et ça ne peut pas rouler. En réalité, si nous sommes sur cette terre, si Dieu nous a créés, c'est principalement, essentiellement, pour une rencontre salvatrice avec Jésus. La volonté de Dieu pour chacune, chacun de nous, c'est que toutes les femmes, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette connaissance qui est en Dieu et dans sa parole de vérité, c'est la Bible. C'est la Bible. Alors me direz-vous, pourquoi devons-nous donc être sauvés? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous avons mis de l'essence dans un réservoir diesel. La voiture n'avance plus, le moteur est fichu, tout est à changer. Alors, bien sûr, on n'est pas une voiture, vous comprenez cette image. La voiture, c'est nous, c'est notre vie, l'essence, c'est diriger notre propre vie sans Dieu. La voiture en panne, c'est notre existence qui n'avance plus, notre existence perdue par le péché. Alors, Dieu, lui, est vivant. C'est un Dieu relationnel, un Dieu qui veut nous rencontrer et faire redémarrer la voiture en changeant le moteur. Et remettre du diesel pour que notre vie soit conforme à sa volonté, à la volonté de Dieu. C'est dans cette optique que Dieu fait cette belle promesse à toute femme, tout homme sur cette terre. Il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Ézéchiel 36, 26. C'est une promesse. Cette promesse de Dieu, si elle concerne Maria, eh bien, s'adresse aussi à chacune, chacun de nous qui avons un moteur cassé, c'est-à-dire un cœur de pierre, et que Dieu veut changer, transformer en un moteur neuf, à savoir un cœur de chair. Alors, c'est bien beau, me direz-vous, mais Dieu, on ne le voit guère à l'œuvre dans ce monde qui ne fonctionne pas. Et il suffit d'écouter les informations pour voir que ça ne fonctionne pas. Eh bien, c'est parce qu'en réalité, Dieu rencontre celle ou celui qui veut se laisser rencontrer. Il veut changer, sauver ceux qui en éprouvent le besoin. Il ne le fait pas comme ça systématiquement, d'une manière systématique, oui. Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Et ce sont les malades. Ça paraît logique, hein. Et par cette nouvelle image, Jésus nous rappelle que ceux qui ne se sentent pas concernés, ceux qui ne se considèrent pas que leur voiture est en panne, que le super a détérioré leur moteur, ceux-là n'ont pas besoin de l'aide de Dieu. Vous savez que lors de sa première venue terrestre, lorsque Jésus rencontrait un être humain, il lui demandait, et ça c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien, « Veux-tu être guéri ?» Vous allez demander à un malade « Veux-tu être guéri ?» Il va te dire « Oui. » Eh bien, il exprimait par cette demande la nécessité de faire un choix, de faire une démarche volontaire. Voilà, il fallait que la personne participe. Et pour rencontrer Dieu, pour être sauvé, transformé, il y a donc une démarche volontaire à effectuer. On n'y arrive pas comme ça par un coup de chance, par un coup de baguette magique, par de bonnes actions ou encore, comme c'est marqué là, par des expériences spirituelles compliquées. Hein ? La démarche que nous propose et nous enseigne Dieu, elle est incontournable. Il n'y en a pas d'autre. C'est de croire et de naître de nouveau. Alors, bien des personnes qui mènent une vie, on dira, galère, ou sans intérêt et qui souhaiteraient repartir à zéro, pensent que c'est juste impossible. C'est pas possible de revenir à zéro. Et ça l'est humainement impossible, oui. Mais pour Dieu, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il faut bien vraiment se le mettre dans la tête, s'en rendre compte. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. L'apôtre Jean écrit dans sa première épître « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Alors Jésus, lui, il est encore plus explicite. Il dit « en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, renaître, changer de vie, de cœur, est donc possible. Ce n'est plus un vœu pieux, mais une réalité accessible à tous. Et sans cette nouvelle naissance, c'est clair, nul ne peut voir ni rencontrer Dieu. Ce n'est pas possible. Et Jésus rappelle que tout être humain sur cette terre naît d'abord charnellement. Ça, on le sait, hein. C'est une naissance par laquelle nous sommes toutes et tous obligatoirement passés. Nous sommes issus de parents charnels et nous sommes des êtres matériels, faits de chair, d'os, de sang et d'eau. La chair, elle est par définition opposée à l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Galates 5:17. Vous savez, la chair, c'est tout ce qui est matériel. C'est tout ce qui se voit, tout ce qui peut se toucher. C'est ça, la chair. L'esprit, lui, au contraire, est invisible, impalpable. Et Dieu, lui, il est totalement esprit. Alors, l'être humain, de par sa naissance, est entièrement charnel et ses pensées occupent un vaste éventail qui va de « Dieu n'existe pas, c'est une totale invention humaine ». Vous savez, c'est le credo de toutes celles et ceux qui pensent que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Hein ? On ne voit pas le vent, donc il n'existe pas. Que ceux qui y croient en Dieu sont des êtres faibles qui se sont créés une divinité pour pouvoir vivre. Vous savez, c'est en gros la pensée de Karl Marx. La religion est le soupir de la créature accablée. Le cœur d'un monde sans cœur, l'esprit d'une époque sans esprit. Elle est l'opium du peuple. Voilà, on a besoin d'opium pour vivre, et donc on s'est créé un Dieu. Alors ça, c'est une extrémité. À l'autre extrémité de l'éventail, eh bien, on trouve des gens qui croient en Dieu, mais sans jamais l'avoir rencontré. Et ils disent, oui, je crois en Dieu, mais ça change quoi à ma vie? Ça change rien. Ils expriment par cette pensée la croyance que Dieu existe parce que ce monde n'a pu se créer seul. C'est la pensée de Voltaire qui confessait « Cette belle et grande horloge qu'est l'univers ne peut exister sans grand horloger. » Alors, une chose est de croire à son existence, une autre est de l'avoir rencontré Dieu. Et là, c'est là qu'on va parler de naître de nouveau. C'est naître de l'esprit, naître spirituellement, car Dieu est esprit, et celles et ceux qui veulent le rencontrer doivent le faire en esprit et en vérité. Parce que le rencontrer charnellement, c'est tout simplement impossible. Naître de l'esprit est donc un acte de foi. Je rencontre Dieu parce que je crois en Dieu, parce que je crois en lui. Vous savez ce que dit la Bible? Elle dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui ou celle qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Autrement dit, « Je rencontre Dieu en croyant que Dieu existe et qu'il agit dans ce monde. » Voilà. Alors beaucoup de gens sur cette terre croient en Dieu sans pour autant l'avoir jamais rencontré, ni être né de nouveau. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela, de dire « je crois en Dieu » et puis de ne pas l'avoir rencontré? Eh bien, tout simplement à cause de l'ambiguïté du verbe « croire », qui a au moins trois sens et trois niveaux de profondeur de compréhension. Par exemple, lorsque trois personnes disent « je crois », eh bien, est-ce qu'elles disent exactement la même chose? Eh bien, nous allons voir que non. La première personne va dire « Oui, je crois qu'il y a certainement un Dieu là-haut. » C'est le premier sens du verbe « croire » qui est le plus superficiel au niveau spirituel. Il émet une opinion, peut-être même un souhait. Hein. Il y a bien quelque chose, il y a bien un Dieu qui existe. C'est mieux que rien. Mais ce n'est pas la croyance que Dieu attend pour nous rencontrer. Une seconde personne va dire « Je crois que Dieu existe et nous a sauvés car nous sommes des pécheurs. » Ça, c'est le deuxième sens du verbe « croire », à la fois plus profond spirituellement, mais aussi plus intellectuel. Hein, ça fait tilt dans l'esprit. C'est la connaissance de qui est Dieu et ce qu'il a fait pour ce monde, en sacrifiant son Fils sur la croix pour le sortir du péché. Mais ça, la connaissance intellectuelle, c'est un passage obligé que celui de comprendre avec son cerveau, son intelligence, Dieu et son message. Mais il faut davantage pour faire une vraie rencontre. Enfin, une troisième personne va dire, comme Maria, je crois au Fils de Dieu qui m'a personnellement sauvé et à qui je remets ma vie. Et ça, c'est le troisième sens du verbe croire. C'est le plus profond, celui qui mobilise non plus l'intellect seul, mais le cœur, qui est le centre stratégique de toutes nos décisions personnelles et spirituelles. Cette troisième forme de croire s'apparente à ce qui se passe, et ça c'est beau, lorsqu'un homme dit à la femme qu'il aime, « Oui, je crois que tu es celle que mon cœur attendait. Je veux m'engager avec toi pour la vie. » Vous voyez ? Et ça, ce sont grosso modo les trois formes du verbe croire. Mais la rencontre, vous savez, la rencontre spirituelle, eh bien, c'est Jésus qui la décide. Nous l'avons dit, le cœur est le lieu profond et stratégique de tout être humain, de chaque personne. Et cet endroit seul permet cette rencontre. Rencontrer, c'est ouvrir son cœur à Jésus, tout comme l'on ouvre à un homme, à une femme qui dit « Veux-tu m'épouser ?» Alors, Jésus, spirituellement, il frappe à la porte de notre cœur pour nous dire « Hé, je t'aime, puis-je entrer afin que nous fassions connaissance ?» La Bible l'illustre ainsi. « Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors vous allez me dire, je n'ai jamais entendu Jésus frapper à la porte de mon cœur. Alors, c'est qu'il s'agisse vraiment, évidemment, d'une image. Lorsque vous lisez la Bible, quand vous entendez, par exemple, le témoignage de Maria, quand vous écoutez Jean-Haut, quand vous écoutez les chants, les prières, ou la prédication de ce matin, eh bien, Jésus vous appelle. Il frappe à la porte de votre cœur. Lorsqu'un cœur s'ouvre à Jésus, j'accepte de croire que je suis en panne, que je suis perdu. J'accepte de croire que j'ai besoin d'un réparateur, que j'ai besoin d'un sauveur. Alors Jésus s'invite dans mon cœur. Mais il ne vient jamais seul. Il vient avec l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va dès lors remplir le cœur de celle ou celui qui l'accueille et commencer un travail de dépannage et de reconstruction qui débute par la nouvelle naissance. La présence du Saint-Esprit me fait naître de l'Esprit. Je ne suis plus uniquement charnel, mais par le Saint-Esprit, je suis à présent spirituel. Alors, vous l'avez compris, nous sommes à présent des créatures nouvelles, puisque nous naissons du Saint-Esprit. Nous avons aussi une identité nouvelle. Avant, nous étions créatures de Dieu, maintenant nous devenons enfants de Dieu, filles et fils du Père divin. C'est pourquoi nous sommes enfants de roi. Nous sommes des princes et des princesses. À tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, eh bien, cette nouvelle naissance a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1,12. Et le Saint-Esprit va dès lors se muer en réparateur. Il va changer toutes les pièces cassées ou en panne de notre moteur. Nous donnons un cœur nouveau, des pensées renouvelées, une vie d'espérance, en guérissant nos blessures et en comblant nos manques. Ça, c'est la sanctification qui est un long travail avec Dieu de renouveau spirituel intérieur. Voilà, on est renouvelé spirituellement à l'intérieur. Plus jamais le Saint-Esprit de Jésus, de Dieu, ne quittera un cœur qui s'est ouvert et l'a accueilli. Plus jamais nous ne serons seuls à diriger nos vies. Plus jamais nous ne serons en panne et abandonnés, car Jésus fait la promesse à toutes celles et ceux qui ont ouvert leur cœur pour l'accueillir. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et cette vie transformée dont nous a parlé Maria, et dont j'ai rapporté l'authenticité biblique ce matin, eh bien, elle est à la portée de celles et ceux qui acceptent d'ouvrir leur cœur à Jésus. Ne passez pas à côté de cette possibilité de rencontre. Si vous avez entendu, au cours de ce culte, frapper à la porte de votre cœur. Et je l'espère. Et je voudrais vous remercier, voilà, là se termine le message, je voudrais vous remercier pour votre écoute et dire aussi un grand merci à Étienne qui, en projetant les dessins, a accompli un travail difficile et ô combien précieux pour moi. Merci. Maintenant, je vais prendre un instant pour prier aussi et remettre nos vies à Dieu. Oui, Seigneur, nous vivons peut-être des vies difficiles, pas intéressantes, des vies qui ne sont pas vraiment comme nous, on l'espère. Mais Seigneur, toi, tu nous as donné la possibilité de repartir à zéro, de naître de nouveau. Seigneur, je voudrais te prier pour toutes celles, tous ceux qui ont entendu le message de ce matin, tous ceux qui ont entendu le témoignage de Maria, qui ont entendu les chants, que vraiment ils fassent la démarche d'ouvrir leur cœur à ta présence. Qu'ils puissent connaître, comme nous la connaissons, vraiment une métamorphose et une transformation puissante et nouvelle. Et que nous puissions vraiment, Seigneur, tous ensemble, te célébrer, te glorifier et être heureux dans nos vies. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Amen.